RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Dans les GG, dans les grandes gueules, tous les jours sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, on discute, on débat. Tout à l'heure à 11h20, on parlera de l'état de nos routes d'une manière générale pour ceux qui fréquentent la région parisienne et qui vont vers l'ouest, vers la Normandie. Une partie de l'autoroute A13 est fermée parce qu'il y a une énorme fissure qui est apparue sur la chaussée. C'est l'une des autoroutes, parties de route les plus fréquentées de France. Et alors, on est quand même assez attristé de voir qu'en France, l'état de nos routes était exemplaire. Aujourd'hui, il y a plus de 20% de nos routes qui sont en mauvais état. Donc venez en discuter tout à l'heure avec nous à partir de 11h20 dans les GG, dans les grandes gueules. En attendant, on revient à notre discussion sur l'éducation, ou plutôt s'il faut reconnaître aux parents un droit de correction. C'est ce qu'a fait la cour d'appel du côté de Thionville, en reconnaissant à ce père qu'il pouvait user de son droit de correction dès lors qu'il n'y a pas de dommage à l'enfant, que ça reste proportionné, que c'est dans le cadre d'une force mesurée et appropriée, alors qu'il avait été... Ah, Joël, qu'est-ce qui se passe?
Moi, je change d'équipe.
Joël change d'équipe. Hein. Elle ne veut plus être avec Charles. Avec Charles qui dit que c'est inadmissible et... Elle rejoint Antoine Dierz et son droit...
Le camp des laxistes qui...
Voilà. Ah, et Olivier aussi. Ah mais d'accord.
Oui, j'étais choqué par les propos de Charles.
Oui, on s'est trompé, on n'a pas vu qu'on
mais
était avec...
Mais tu sais combien de cons pour un intelligent?
Oui. Bah là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un de con.
Mais non, mais c'est pas moi, j'en reviens pas, regarde. Mais écoutez, je suis ravi de défendre seul la cause de l'enfance.
Ne souhaitons pas rester
Charles,
avec cette propagande laxiste.
Ils sont leur la liberté, grandir dans la liberté.
Et, par ailleurs,
et pas dans le formatage de l'éducation et de la sanction.
Vous pouvez avoir cette attitude et élever vos gosses de manière à ce qu'ils deviennent des êtres soumis. Mais moi, je trouve que c'est même pas un sujet avec lequel on peut vraiment plaisanter, parce que le nombre d'enfants battus à côté desquels on passe, la nullité des services sociaux dans ces cas-là, la pleutrerie des gens qui sont témoins, qui entendent chez le voisin le gosse se faire cogner, qui voient le gosse arriver à l'école, qui savent qu'il y a quelque chose, le temps qu'ils mettent avant d'intervenir, avant de signaler ce qui se passe.
Charles,
c'est quelque chose quand même de réel.
Une espèce de coup d'avocat qui détourne le sujet.
Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui existe.
On est entièrement d'accord avec toi. Mais c'est une autre forme de maltraitance que de ne pas donner de cadre à un enfant.
Il faut tolérance zéro s'agissant de la violence.
Non, mais personne autour de cette table ne défend la violence contre les enfants qui doit être condamnée. On a changé de camp avec Joël lorsque tu as expliqué qu'il fallait surtout pas donner de cadre aux enfants, qu'il fallait laisser dans une liberté totale. Moi,
je pense qu'il faut leur foutre la paix.
Quand tu seras père, tu verras que tu rendras service à ton enfant en fixant un cadre. C'est parce que justement tu fixes un cadre sans être un père fouettard. C'est parce qu'il va pouvoir se construire. Et c'est justement parce qu'il aura des remparts, il saura ce qu'il peut faire et pas faire, qu'il pourra bien se construire. Mmh. Regarde dans l'actualité tous ces mineurs qui commettent des choses abominables.
C'est des ados,
le point commun, ils ont 14-15 ans. Le point commun ces jeunes, c'est qu'ils n'ont pas eu de cadre. Le père n'est pas là. Ils sont dans des familles défaillantes. Je pense notamment aux deux là qui ont massacré à mort Philippe. On a eu leur profil. C'est exactement.
Mais souvent, ils se sont fait boxer dans leur famille.
Non, il n'y avait personne. Ils étaient dehors toute la journée, etc. Ils étaient laissés justement libres à eux-mêmes. Et c'est ça.
Alors, on va en discuter du côté de la Haute-Savoie et du côté de l'Essonne avec Junior qui est routier, donc essonien. Bonjour Junior.
Oui, bonjour.
Alors, dans quelle équipe êtes-vous? Est-ce que c'est choquant, pas choquant? Dites-moi.
Moi, je suis pas choqué. Alors déjà, je suis pas choqué, mais je dirais qu'il faut pas frapper sur l'enfant pour le plaisir de frapper. On se déchaîne pas sur son enfant. Je veux dire qu'en gros, il faut quand même que derrière, ils comprennent que frapper son enfant sans discuter avec lui, ça sert à rien. Enfin, c'est juste de déchaîner sur son enfant. C'est prendre son enfant pour un punching ball. Mais si derrière, il y a une bonne communication, mais bien sûr qu'il va comprendre.
Ah bah une baffe et puis après, une bonne communication.
Mais
dans ce cas-là, ça va.
Moi, j'ai pris des coups de ceinture, moi, je vous le dis concrètement.
Vous trouvez que ça vous a aidé?
Mais bien sûr.
Ah bon.
Parce qu'à l'époque, peut-être que pendant que je prenais mes coups de ceinture, je ne vais pas vous dire que j'étais d'accord. Hein. Je ne vais pas vous dire que j'étais d'accord pour prendre les coups de ceinture pendant que je les prenais.
Quel âge aviez-vous, Junior?
Bah, j'avais entre 9 ans et 17 ans, puisque mes parents ils étaient trop vieux pour me frapper. Et puis même, je commence à comprendre la vie aussi.
D'accord. Et pourquoi vous preniez les coups de ceinture? Qu'est-ce que vous aviez fait à l'époque alors?
J'avais fait toutes les bêtises possibles, hein, je pense quand même. Hein. déjà, à chaque fois, je volais les clés de mon père, j'allais conduire sans permis, et je me, la police qui appelait mon père pour me dire,
venez. À 9 ans, quand même,
Ah oui, c'est pas rien que je faisais comme bêtise. Attention, hein, je suis pas en train de vous dire que, voilà, mais quand mon père rentrait, il venait me chercher au début. Mon père le disait au commissariat, non, moi, j'ai pas de gosse qui fait ce genre de conneries là. Donc, gardez-le. Donc, déjà, les policiers me gardaient pendant près de 24
heures. Visiblement, ça a duré 8 ans, donc les coups de ceinture étaient pas vraiment efficaces, quand même.
Mais que j'ai pas conduit à l'âge
de 10 ans. Parce que l'intérêt, c'est de pas les renouveler, c'est que vous arrêtiez.
J'ai conduit à l'âge de 10 ans. Je suis pas en train de vous dire que j'ai conduit à l'âge de 10 ans.
Pourquoi vous faisiez ces bêtises, Junior?
Parce que je venais d'arriver en France et que c'est une liberté, disons. Je viens de comprendre, je venais d'arriver en France. Déjà, arrivé au Nigeria, parce que moi, je suis originaire du Nigeria. Mmh. Au Nigeria, les profs, ils avaient le droit de vous chicoter. Donc, sachez que si vous alliez vous plaindre...
Vous chicoter, on a fait ça en Afrique.
Donc, concrètement, si je me faisais chicoter et que je rentrais chez moi et me plaindre que maman, tu sais que je me suis fait chicoter par le prof parce que j'ai pas fait mes devoirs. Ben, non seulement le prof, il était mieux payé, mais en plus, il devenait mon prof à la maison aussi. C'est-à-dire qu'on l'appelait pour qu'il vienne me donner des... Ah oui, je vous assure. Mon prof devenait mon
Antoine, l'immigration, ça a du bon.
Attendez, j'ai pas de soucis. Là-bas, ils réagissent comme ça. Chez nous, ils sont différents.
Allez-y, Junior.
Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Quand j'arrivais en France et que j'ai vu des camarades de classe pouvoir dire ferme ta gueule, le prof, on lui disait juste va au coin. Moi aussi, j'ai commencé à croire que j'avais des libertés.
Entièrement d'accord.
Forcément, quand on me dit va au coin ou tu vas juste écrire le règlement à l'intérieur, tu crois, franchement, c'était à l'aise pour moi, c'était facile.
C'est donc, un appel à plus d'autorité, Junior, on est d'accord.
Donc, du coup, quand j'ai commencé à prendre 2-3 baffes, je vous cache pas que, du coup, les bêtises, je les faisais moins. Mais en grandissant, je fréquentais d'autres gens qui faisaient d'autres bêtises. Donc, moi aussi, j'ai encore fait d'autres bêtises.
Et Junior, et vous êtes papa aujourd'hui ou pas?
Aujourd'hui, je suis papa, oui.
Vous avez combien d'enfants?
J'ai 2 enfants, il y en a un qui a 15 ans.
Et quel type d'éducation vous leur donnez alors?
Ah ben lui, il a pris quelques bonnes fessées, mais il l'a pris beaucoup plus tôt. Et finalement, aujourd'hui, je suis très fier de lui.
D'accord. Et le deuxième?
Le deuxième, il va naître... Le deuxième, il est né là. Là, il y a 10 minutes.
Ah, 10 minutes. C'est vrai?
Non, j'exagère. Ah bon. Quand je dis il y a 10 minutes, il est né hier.
Félicitations.
Bravo.
Comment ça va?
Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour lui, parce que ça va être chaud.
Il s'appelle Elijah.
Ben, félicitations et bienvenue à Elijah, alors, mon cher Junior. Et merci de votre témoignage. À vous donc.
Non mais Junior, non, lui, il a été cadré
avec l'éducation que mon père m'a donnée. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, mon père n'est plus là. Mais je vous le dis, mon père m'a sauvé la vie. Et mes cousins et moi, nous sommes tous d'accord pour vous dire que nos parents.
Mais voyez, Junior, dans vos témoignages, après, on peut débattre du coup de ceinturon, etc. Moi, je suis pas spécialement favorable. Mais ce qui est intéressant dans vos témoignages, c'est que, en fait, je crois qu'il faut laisser les parents tranquilles un peu.
Mais bien sûr.
Moi, je me souviendrai toujours de ce qu'avait dit un ancien ministre socialiste, Vincent Peillon, l'éducation, en expliquant que les parents étaient défaillants et que, de toute façon, l'État était les seuls compétents pour bien élever un enfant. On était dans l'idée que l'État tout-puissant devait remettre dans le droit chemin des parents mal élevés, forcément, par définition. Non, moi, je pense qu'il faut laisser les parents faire ce qu'ils peuvent.
Oui, mais c'est pas évident.
Allez-y,
Julien.
Moi, ce que je pense, c'est que l'État peut aider les parents. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des choses que l'État fait de bien aussi. On ne peut pas cracher dans la soupe. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne crache pas sur
l'État. Je pense que l'État est trop présent, mais bon.
Oui, l'État est un petit peu trop présent dans le fait d'interdire aux enfants de faire n'importe quoi. Et je vous donne l'exemple de mon petit cousin qui a 15 ans de moins que moi. Mais bizarrement, avec 15 ans de moins que moi, aujourd'hui, c'est un des adjoints d'une grande ville que je ne peux pas citer parce que sinon je l'affiche, mon cousin. C'est l'adjoint premier adjoint du maire d'une ville. Et voilà, c'est d'une grande ville de l'Essonne.
D'accord.
Donc, c'est pour vous dire à quel point, quand il avait 17 ans, son père voulait le chicoter, comme à l'époque, comme moi aussi je me faisais chicoter. Mmh. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé au mec de son quartier d'aller s'en prendre à son père. Les mecs de son quartier ne savaient pas que c'était son père.
Ah, oui.
Ils allaient le faire, et au dernier moment, il y en a un qui a reconnu son père, il a dit non, on fait pas ça aux parents, pas ou quoi. Et finalement, quand le père s'en est rendu compte, vous savez ce qu'il a fait? Il l'a envoyé au Nigeria pendant 3 ans. Au bout de, à son retour du Nigeria, ils ont passé l'aéroport. Le père a dit donne-moi ton passeport, je te le garde. Mais en fait, il l'a brûlé devant lui pour lui montrer que tiens, tu vas rester ici, on va voir ce que ça donne. Tu vas comprendre c'est quoi la vraie vie. Parce que en Europe, on a des faux problèmes des fois. Je vous assure, on a des faux problèmes. Et finalement, quand il est revenu, il a dit merci papa. Et finalement,
c'est la méthode du père et c'est pas la méthode de l'État.
Propose des stages au Nigeria.
Mais oui, tous les. Attal, au lieu de dire il faut des internats, on envoie tous les petits au Nigeria.
À Lagos, tu vois, pendant 3 mois, à la méthode du cousin de Junior, là, et ce sera efficace. Junior, merci d'avoir été avec nous. Bonne route. Merci, ouais, monsieur le routier. À bientôt. Salut. Et bienvenue au petit Elijah. Alors, salut, Junior.
Merci beaucoup.
On a Sylvain qui nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour, Sylvain.
Oui, bonjour.
Alors,
bonjour,
donc, droit de correction ou pas, alors?
Non, sincèrement non. Après, j'ai bien écouté le témoignage qui vient d'être annoncé. C'est un parcours différent, on est bien d'accord. Ça change rien. D'abord, il y a deux catégories d'enfants. Il faut arrêter de penser que les enfants sont bien ou sont mal fonction d'eux. Il y a des enfants qui s'en sortiront toujours et des enfants qui s'en sortiront jamais. Il y a des enfants qui feront des conneries et d'autres qui en feront pas. Moi, mes fils, j'ai eu une enfance assez spéciale. J'ai été élevé par mon beau-père. Mon père n'avait rien à péter. Ça a été dur. Ça a été dur et ça m'a pas empêché de faire des conneries. Et moi, c'était mon beau-père, et à partir du moment où il m'expliquait qu'il ne fallait pas que je fasse quelque chose, la première chose que j'avais envie de faire, c'est de la faire juste pour le faire chier. Ah ouais. Donc aujourd'hui, moi, mes enfants, j'en ai un qui a 28 ans, l'autre qui a 20 ans, ils sont droits, ils sont carrés, ils n'ont pas de casier judiciaire, ils sont appréciés par leurs amis, appréciés par un tas de gens, et j'ai jamais levé la main sur mes enfants, j'ai promis, j'ai jamais donné.
C'était dans la discussion, vous avez surtout...
Vous avez promis quand même, c'était une menace.
On n'a pas le droit de faire. Ouais. Et surtout, il faut expliquer pourquoi, comment. Expliquer pourquoi, comment, parce que les gosses, ils sont pas bêtes. Si on leur explique ce qui peut y arriver, quelles sont les conséquences et comment ça va se passer, il faut leur expliquer la vie, il faut leur expliquer un tas de choses. Et il faut être complice, il faut être là pour eux, il faut qu'ils puissent avoir confiance, parce que si demain il y a un problème, et qu'ils savent qu'ils vont prendre les coups, eh ben ils vont pas en parler, et les problèmes vont s'aggraver. Et quand on s'en apercevra, ce sera trop tard. Alors que si on est complice, et que les gamins, ils ont confiance, et qu'il y a une vraie confiance, parce que la première des choses à faire, c'est pas de donner tort à son gosse quand on sait pas ce qui s'est passé. C'est normal qu'on défende son enfant. Pas n'importe comment, mais c'est normal qu'on défende son enfant. Il faut lui donner confiance, lui donner
la possibilité
de venir discuter, et d'expliquer pourquoi. Moi, j'ai mon fils, une fois, il m'a ramené... il avait envie d'acheter des carénages de scooters qui étaient nickel, qui étaient neufs, qui étaient ci, qui étaient là, qui étaient pas chers. C'était un bon coup. On discute et discute et discute parce qu'il y a rien n'est gratuit. Et j'ai posé la question. On a fini par avoir la discussion. En fait, c'était une arnaque à assurance, soi-disant. En fin de compte, c'était simplement des pièces volées. Je lui ai dit non. Je lui ai expliqué pourquoi. Simplement, si tu acceptes d'acheter des pièces volées, tu acceptes qu'on te vole ton scooter à un moment ou à un autre. Donc, on va arrêter les conneries, parce que si demain, tu vas sur ce terrain-là, ce qui peut se passer, c'est très simple, c'est que tu vas finir en prison. Donc, je l'ai amené dans sa chambre, je lui ai montré sa chambre, j'ai dit là, tu vas passer 23 heures par jour, enfermé ici, avec peut-être 2 personnes, qui vont te regarder quand tu vas aller aux toilettes, parce que c'est là que tu vas passer ta vie. Est-ce que tu as envie de vivre ce genre de choses pour gagner 3 carénages à 100 euros, alors qu'à 300 euros, on peut les avoir 9?
On n'est pas loin du droit de correction parentale quand même.
Mais des conneries comme ça, tu ne vas pas en faire.
Et donc, il a compris. Voilà, Sylvain, lui, il a privilégié le dialogue, l'exemple, et
la prison,
il fait un peu peur.
Oui, enfin, il a menacé de prison. Hein.
Bah, il a dit, si tu continues tes années, voilà, loin va se terminer.
En fait, chaque enfant est différent. Et il n'y a que le parent qui peut savoir ce qui est bon pour son enfant.
Charles, parle-nous de ton enfance, parce que visiblement, tu as dû être trop cadré pour vouloir aujourd'hui.
Non, pas du tout. Je pense qu'il n'a pas été cadré du tout.
Leur laisser la liberté totale.
On m'a toujours foutu une paire royale. Ben voilà. Et je suis désolé, je n'ai pas l'impression d'avoir gravement déconné par la suite. Et franchement, je trouve que ça va. Et je pense que cette passion pour la fermeté vis-à-vis des enfants se conjugue avec l'esprit négatif français. Je pense qu'il y a une espèce de double peine là-dedans. Si je vois autour de moi des tas de gens qui sont tellement contents d'édicter des normes qu'ils imposent dans leur maison et qu'ils imposent à leurs pauvres gosses.
Des normes,
il faut les laisser s'ennuyer, il faut les laisser rêver, avoir des idées un peu farfelues. Il faut pas les forcer à finir leur assiette pour bouffer le truc dégueulasse qu'on leur a préparé.
Quand ton gamin aura fait une vraie connerie, tu viendras le voir et tu lui diras, c'est pas bien d'avoir mis le feu à la maison du voisin. Tu te rends quand même compte que
on peut pas vraiment faire ça. Effectivement.
Bah, et on n'est pas dans une série américaine. Les gens.
Alors attendez, on va. Merci à Sylvain d'avoir été avec
la maison du voisin. Ils habitent même pas dans des maisons, les pauvres.
De Haute-Savoie, on va aller dans l'Isère. Bonjour Adrien.
Bonjour à tous.
Bienvenue Adrien. Alors, plutôt du côté de la fermeté avec Joël, Olivier et Antoine, ou plutôt du côté du il faut laisser de la liberté
et bah, on va partager Charles. Tout ça, on va se mettre entre les deux, on va être un peu plus raisonné. Bonjour à tous et puis encore une fois bonjour à Joël comme d'habitude.
La chouchoute.
Eh oui, bah on verra, on sait pourquoi.
Ah bon,
elle est super. Bah oui, oh non, mais c'est Adrien
une déclaration d'amour là.
Contact sur les réseaux. Non, sur les réseaux, on parle beaucoup.
Ah, okay. Oui, Adrien.
Voilà. Quel réseau? Des réseaux dark, underground?
Non, les réseaux professionnels, LinkedIn.
Exactement.
Voilà. Non, alors moi, juste, je vais commencer par dire que la violence, c'est juste la politique du lâche. Clairement, frapper son enfant, j'ai été frappé, j'ai pris des très très belles corrections. Pas souvent justifié, mais je le sais aujourd'hui avec du recul qu'à l'époque, quand ma mère me mettait des trempes, parce qu'on peut vraiment appeler ça des trempes, c'était simplement parce qu'elle était dépassée, parce qu'elle ne savait pas comment répondre à des questions qu'elle se posait. Comment faire obéir mes enfants, comment obtenir leur obéissance, comment...
Ouais.
Et c'était tellement plus facile de taper pour essayer de se faire entendre que d'essayer de dialoguer. La preuve, à partir du moment où on a eu la possibilité de lui faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'elle frappe parce qu'on pouvait répondre, elle a arrêté de le faire et elle s'est sentie tellement dépassée qu'elle a fui la maison. Ce que je dis, c'est quand même... moi, je n'ai jamais levé la main sur qui que ce soit, ni sur ma mère, ni... Mon frère l'a fait. Mon frère, à un moment donné, a voulu se rebeller et comme il était plus fort physiquement, il a voulu se rebeller et là, ça a été monté en escalade. Moi, j'ai toujours dit que jamais je lèverai la main sur mes enfants. La preuve en est, c'est qu'il suffit juste d'un regard pour que mes filles comprennent qu'il ne faut pas qu'elles fassent de bêtises.
Quel âge ont-elles?
Elles ont 9 et 5.
D'accord.
Elles ont 9 et 5. Oh, mais moi, les enfants qui crient, qui tapent des pieds dans les supermarchés, qui hurlent, ah, j'en peux plus. Moi, mes filles, quand elles voient ça, mais pourquoi papa, cet enfant réagit comme ça? Parce qu'en fait, personne ne communique avec lui. Personne lui pose le cadre. En fait, c'est simple, pour qu'un enfant s'épanouisse, il faut lui poser le cadre. On lui pose pas le cadre en lui tapant sur la tête.
Non,
on lui pose
sûr.
Le cadre en lui expliquant les choses. Et c'est tellement compliqué et simple en même temps que de communiquer avec son enfant. En fait, communiquer, oui, ça prend du temps. Oui, pardon. Oh, excusez-moi. C'est vrai que dans ce monde où tout va très vite, se poser 5 minutes et discuter avec son enfant, c'est vrai que c'est, on n'a pas le temps.
Donc vous privilégiez le dialogue et la fermeté, puisque vous dites, voilà, le regard, ça suffit pour faire comprendre qu'il peut y avoir, sur Joël.
Moi, je partage tout à fait ce que dit Adrien, parce que c'est ce que je fais aussi avec ma fille. Il n'empêche que je lui ai quand même mis 2 ou 3 fessées. Et il faut dire qu'on a un problème aujourd'hui avec l'éducation des garçons. Parce qu'on pense toujours qu'un garçon, ça s'élève comme une fille. Non, les garçons, ça ne s'élève pas comme une fille. Un garçon, moi je vois bien ma sœur. Moi j'ai une fille.
Comment tu sais si ton garçon
soeur...
est une fille ou un garçon? Tu ne sais pas. C'est à lui de choisir.
J'ai
son genre.
J'ai 2-3 indices.
C'est...
J'ai 2-3 indices sur lesquels je m'appuie.
Ah non. Alors là, c'est de la transphobie.
Oui, oh bah
c'est à lui de choisir son genre.
Non, mais continue. En attendant, je choisis pour lui. Et je vois bien ma sœur, elle a un garçon. Et il est turbulent. Enfin, il veut se battre, des choses comme ça. Donc, les garçons sont différents des filles. Et donc, peut-être
discussion.
Que le cadre qu'on met aux garçons.
Les garçons sont différents des filles.
Ah oui,
un droit de correction parentale. Merci, Adrien. À bientôt. Donc, on vous sélectionnera au 32-16 quand Joël sera là. Donc, un droit de correction parentale, est-ce que c'est choquant? Oui, non. Alors, il y a eu des changements d'équipe entre-temps.
Nos auditeurs, évidemment, ils tapent leur gosse.
Alors, qu'est-ce qui est privilégié? Allez, envoyez le résultat final.
Pardon, là, Charles.
Voilà, non, ce n'est pas choquant.
Il y a quand même 26% de...
Il a été recadré par les auditeurs.
Il y a 26% exactement. De gens qui sont bienveillants avec leurs enfants. Je les salue.
Dans un instant...
Caricature, tout le temps.
La tresse fermée, constat affligeant, accablant aujourd'hui pour... l'état des routes françaises qui sont endommagées. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est automobiliste, on est en danger sur les nationales, les départementales? Peut-être pas sur les autoroutes. Quoique, venez en discuter au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le Gorgonzola.
Les GG, on était en pleine discussion bonbon fromage là pendant la pub des GG. D'ailleurs, cette discussion bonbon fromage, vous pourrez la retrouver sur les podcasts, dans les podcasts des GG. C'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Vous allez prendre l'onglet podcast. C'était une petite discussion qu'on avait pendant la pub. Antoine Diers, Joël Dagosséry et notre ami Charles Consigny. Voilà le trio de GG qui est avec vous. De quoi va-t-on parler maintenant ? De l'état de nos routes.
RMC, les grandes gueules.
Oui, en fait, cette discussion est partie de l'état d'une partie de l'état de la 13, avec une fissure qui est assez impressionnante sur le bitume. Alors, on parle de mouvement de terrain à cause des pluies abondantes. Du coup, cette partie de l'autoroute A13 qui emmène de Paris vers l'ouest du pays, vers la Normandie, a dû être fermée.
Oui, ce qui rend la situation très compliquée pour les Franciliens, ceux qui sont rentrés hier de vacances, notamment de Normandie, parce que c'était la fin des vacances des Parisiens, et puis ceux qui prennent, ils sont nombreux tous les jours, cet axe. Il faut savoir que les autoroutes qui ne sont pas gérées par des sociétés privées, c'est-à-dire par l'État, sont très mal entretenues. Il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent. Alors, vous allez me dire, mais où va notre argent, puisque nous sommes beaucoup imposés, mais bon, voilà, visiblement, il n'y a plus d'argent pour ça. Ce qui fait que c'est très bien géré quand c'est une société privée. Mmh. Et puis, quand on arrive autour des grandes villes, c'est tout d'un coup l'État qui reprend la main. Et là, malheureusement, on arrive à ce qui s'est passé sur cette autoroute A13 entre le périph' et Beaucresson, un affaissement de terrain qui nécessite des travaux. Alors, ce soir, on saura combien de temps l'autoroute sera coupée. Alors, en plus, c'est la double peine, c'est-à-dire que donc, tu n'as plus ton autoroute, qui est gratuite à ce moment-là, puisque c'est l'État. Mais donc, on te propose de prendre des autoroutes qui sont payantes et qui sont parmi les plus chères de France. T'as l'autoroute A14, qui coûte pas moins de 10,60 € pour une vingtaine de kilomètres, quand même. Et tu as l'autoroute A86, la partie duplex, entre Rueil-Malmaison et Vélizy, pour ceux qui connaissent la région parisienne, et qui te coûte également une blinde. Ça va jusqu'à 12,50 € pour seulement 10 kilomètres. Bon, donc en fait, c'est vraiment le double piège. Et si on élargit le débat, on s'aperçoit que depuis des années, eh bien, nos routes, nos autoroutes se détériorent. On était plutôt un modèle, jusque dans les années 2012, modèle d'infrastructure routière, et la France fait désormais figure de cancre. En moins de 10 ans, le pays a perdu 18 places dans un classement des réseaux les mieux entretenus du Forum économique mondial publié en 2019. On consacre de moins en moins d'argent à nos routes. Il faut savoir que les routes communales, donc c'est la mairie, les départementales, c'est le département, national, c'est l'État. Il y a 1,1 million de kilomètres de route en France. Il y a un rapport régulier qui avait été publié par le Sénat qui montrait que les ponts étaient aussi dégradés. 10% des ponts, il y en a 45 000 en France, nécessitaient même des mesures de sécurité immédiates. Depuis ce rapport, est-ce qu'on a pris ces mesures de sécurité immédiates ? Il faudrait avoir la réponse.
Alors, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, vous le constatez, les routes sont toutes largement détériorées ? 32-16 pour en parler avec les GG, Antoine ? Vers chez toi, dans les Hauts-de-France, dans le Nord, là ?
Alors, pendant longtemps, l'A25 entre Lille et Dunkerque, que j'emprunte beaucoup, était dans un triste état, mais elle a été refaite. Par contre, moi, c'est le réseau secondaire que je trouve très, très délabré. Et tu le disais, Olivier, on paye très cher. On se demande ce qu'ils font de notre argent. Et alors, au pied de la 13, il y a quelques semaines, je discutais avec un chauffeur de bus qui se reconnaîtra et qui me disait qu'en matière de route, ça lui faisait penser à l'Algérie, pays dont il est originaire, où à un moment tout s'est effondré et il voit en France un effondrement à peu près partout, des routes comme ça, et il dit l'Algérie, on n'arrive pas à reprendre la main sur le truc, et ben c'est pareil en France maintenant, le truc s'effondre partout et on n'arrive plus à récupérer les choses.
Ça montre en tout cas que les sociétés, les autoroutes privées, c'est peut-être pas si terrible que ça. Et que c'est peut-être une décision qui est assez salutaire en réalité.
Tu sais combien communes et départements devraient investir pour rénover l'état des routes ?
Beaucoup.
12 milliards. Voilà. 12 milliards. Elle dit, mais comme on nous a enlevé bon nombre d'encaissements de recettes aujourd'hui...
Vu l'explosion de la taxe foncière, voilà. Ils vont avoir de l'argent. Milliards.
Et on a exactement le même sujet sur nos rails. Le rail est aussi en sous-entretien depuis des années, et donc dans quelques années, on va avoir des problèmes de rail à l'image de la route.
Non, je crains. Moi, j'étais au contraire.
Et vers chez toi, vers le Jura, et tu commences.
Ah non, routes, mais dans le Jura, c'est nickel. Mais les Jurassiens, tu n'imagines pas. C'est un esprit. Il s'agit que tout soit nickel chrome.
C'est pas loin de l'Allemagne,
donc
c'est pour
nous,
ça.
C'est nickel. C'est des gens de l'Est qui ne dilapident pas leur argent pour faire n'importe quoi et qui le consacrent à ce qui est utile. Et donc les routes sont en pleine santé. Moi, j'étais j'étais d'ailleurs toujours frappé de voir qu'en France, on avait des routes incroyables.
Mais oui.
Aux dernières nouvelles, c'était quand même ça. S'il y avait un truc
jusqu'en 2010,
c'était nickel. C'était ça. Mmh. Donc, c'est le syndrome de notre déclassement, le symptôme plutôt de notre déclassement. Qui atteint y compris ça et qui atteint tout le reste, je pense, et d'une mauvaise utilisation des deniers publics, puisqu'on finance tout et n'importe quoi. J'ai vu par exemple, c'est un exemple parmi mille, mais j'ai vu passer là que la mairie de Paris avait, on parlait des trans tout à l'heure, accordé une subvention de plusieurs centaines de milliers d'euros à une association de lutte contre la transphobie en Équateur. Et ça n'est pas un fake. Donc, consacrons nos budgets, notre argent à ce qui est quand même utile pour nous. Et je pense que globalement, il y a une très grosse réflexion à avoir sur le fléchage des dépenses publiques. À quoi on consacre notre argent public ? J'entendais ce matin le président de la Banque de France sur une chaîne concurrente qui donnait des leçons sur les trajectoires budgétaires. C'est quelqu'un qui est payé 300 000 euros par an pour une Banque de France qui ne sert plus à rien puisque nous n'avons plus le franc, et qui, outre ces 300 000 euros, parce que vous comprenez, avec ça, on ne peut pas se loger à Paris, bénéficie d'une indemnité logement de 70 000 euros par an. Bah, faisons le tri dans nos dépenses publiques et je pense qu'on pourra entretenir nos routes et arrêter de nous déclasser comme ça.
Un million de kilomètres de routes, c'est ce que tu disais. Et alors, quand on regarde la répartition...
Oui, parce que c'est 700 000 kilomètres qui dépendent des municipalités, 380 000 des départements et seulement 12 000 pour l'État. Alors là, concernant la Tresse, c'est l'État entre Vaucresson et le périph. Mais par exemple, les communes, alors les communes vont dire elles n'ont pas d'argent, mais enfin elles ont toutes fait exploser leurs taxes foncières. Donc elles récupèrent quand même de l'argent quelque part.
Joël, toi qui es tout le temps en bagnole.
Oui, j'ai la chance de ne pas conduire parce que quand je vois ça, je préfère être encore dans mon RER. Je sais pas.
Le RER va très bien en plus.
Oui, fonctionne bien. Bien sûr.
C'est une chance d'être en RER.
Bah, écoute, tu sais plus maintenant.
Un moment
de
grâce.
Chance, puisque partout où tu regardes,
NKM.
Partout où NKM. Tu regardes, il y a comme un. Comment je peux dire ça ? Ça part en sucette. Ouais. Voilà, ça part en sucette. C'est l'expression que je vois. Bah, ça part en sucette partout en France. Et tous les domaines dans lesquels on était un modèle, il n'y en a plus aucun qu'on tient. Donc on ne tient plus notre rang. Donc quand certains m'expliquent qu'on est encore une grande puissance mondiale et tout, enfin moi je dis qu'on vit nos dernières heures, enfin qu'on profite encore des derniers feux qui nous restent. Mais là où je m'interroge quand même, c'est cette France, elle est dirigée par une quarantaine de ministres, si j'ai bien compris.
Non, elle est dirigée par l'Élysée.
Oui, d'accord, mais on a dans un gouvernement une quarantaine de ministres. Et pourtant, rien ne va alors qu'on est suradministré. Tu as des voisins qui ont 20 ministres, je ne sais pas, en Allemagne, ils sont peut-être à 16 ou 20 pour quelque chose d'équivalent, une taille de pays équivalente.
Les ministres n'existent pas, Joël, les ministres.
Et ça fonctionne.
Change tous les deux ans.
Donc, justement, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas.
On s'en fout des ministres aujourd'hui.
Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans une vraie décentralisation ? Une vraie décentralisation. Avec moins de ministres, 15 ministres, à la rigueur 20 ministres, une vraie décentralisation avec un vrai pouvoir qu'on redonne aux régions, aux départements, avec un vrai budget.
Non, mais simplement, en fait, on veut tout financer. Et on fait
mais
tout
oui,
mal.
Mais...
Donnons-nous des priorités. Oui. Si on pense que la voirie, la route, et moi je pense en matière de sécurité, de déplacement, c'est essentiel. Pour se déplacer, c'est l'économie, le déplacement, la mobilité, et en plus en toute sécurité. Donc il faut effectivement refaire nos routes, il faut refaire nos ponts. Enfin, c'est quand même très, très inquiétant de savoir que 10% des ponts en France nécessitent des mesures de sécurité immédiate. Le jour où un pont va s'écrouler, on verra effectivement cher ministre venir pleurer
des
larmes de crocodile devant le pont, et il sera trop tard.
Alors, et attendez, on va en parler avec quelqu'un qui parcourt la France, c'est Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour les GG, bonjour tout le monde.
En tant que
bonjour
routier, donc dans quel état sont nos routes, Philippe, alors ?
Nos routes et nos ponts sont comme la France en décadence. Ça devient une catastrophe. Catastrophe, vous imaginez même pas. En fait, il y a une époque où on roulait à 40 tonnes. Aujourd'hui, nous, poids lourds, on roule à 44 tonnes. Et vous, comment que vous voulez contrôler un pont ? Normalement, un pont, on contrôle, on met du poids sur un pont. On contrôle en visuel. Comme le fameux pont de Chamborigo, moi, j'y suis passé une trentaine de fois dessus. Ça aurait pu être moi.
En Italie.
Mais ça devient une catastrophe. Moi, en plus, les transporteurs laissent beaucoup d'argent au niveau des taxes à l'essieu. Ils payent des taxes pour l'entretien des routes.
Oui, c'est vrai.
soi-disant. Mais aujourd'hui, où va cet argent?
Vous roulez, vous faites national, départemental?
Déjà, on fait national, départemental. Après, il y a beaucoup d'étrangers aujourd'hui. Que vous savez bien qu'avec l'Europe, les étrangers, ils prennent...
il y a beaucoup de transit.
Alors, il y a des interdictions, parce que, voilà, le coût d'autoroute, et si... Voilà, et ça devient une catastrophe. Mais il y a plus en plus de monde aussi. Et on ne fait rien.
Mais ça veut dire quoi, catastrophe? Ça veut dire quoi, que les routes, elles sont déformées, il y a des trous,
il y a des
fissures,
après,
c'est ça.
Moi aussi, moi je fais pas mal de vélo, mais après on prend des axes secondaires, mais vous verrez ça, mais c'est l'horreur. Après il y a plus de financement, moi je me demande qu'est-ce qu'ils font l'argent. Mais le gouvernement, je sais pas ce qu'il fait. Franchement, avec tout l'argent qu'on laisse.
Mais parce que je pense que c'est plus une priorité. En fait, c'est des histoires de priorité budgétaire. On a dû se dire qu'on pouvait faire des économies là-dessus.
Oui, peut-être. Mais bon, après.
Oui, mais en attendant, ça met en danger. Ça met
en 2022, en 2022, seulement 9 milliards d'euros ont été investis dans les voiries par les administrations publiques.
Philippe,
c'est l'Observatoire national de la route. C'est 20% de moins qu'en 2013. Donc, ce sont des choix budgétaires.
Est-ce qu'on s'interroge sur ce que ça fait sur le pouvoir d'achat, tout ça? Enfin, une voiture qui roule sur ce type de route.
C'est ça.
Ça abîme complètement la voiture. Et après, ils vont te dire, on va te faire un chèque pour ton pouvoir d'achat. Mais non, mais me fais pas de chèque. Entretiens les infrastructures. Toutes ces personnes qui sont comme moi, qui ont dû mettre leur enfant dans le privé, qui auraient pu aller dans le public. Tout ça, c'est du pouvoir d'achat en moins. Pourquoi tu entretiens pas, en fait, ce que fait la France? Très bien. Et à ce moment-là, tu luttes aussi pour le pouvoir d'achat en faisant ça.
Philippe, merci d'avoir été avec nous. Bonne route, Philippe Dugard. Ensuite, on écoutera Thierry. Il est du côté de la Seine-et-Marne. Tous les jours, il prend la Nationale 4. Et d'après ce qu'il va nous dire, c'est un sport national que maintenant d'arriver à conduire correctement sur cette portion de route. Allez, à tout de suite.
RMC. 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Ensemble, on discute, on débat, ou on écoute vos témoignages. Là, on parle beaucoup de la route, avec la fermeture partielle de l'autoroute A13 à cause d'une grosse fissure sur le bitume. Et ça nous a amené à regarder un peu le panorama des routes françaises. Plus d'un million de kilomètres de route, 700 000 pour les municipalités, à charge des municipalités, 380 000 pour les départements, 12 000 par l'État. Et des routes qui ne sont pas en bon état, des milliards d'euros qui devraient être investis. C'est Thierry qui va en parler avec nous. Bonjour Thierry.
Bonjour les Grandes Gueules.
Bienvenue. Alors Thierry, vous voyez du côté de chez vous, de la Seine-et-Marne.
Oui.
Et en alors, fait, moi, dans quel état sont les routes?
Alors moi j'emprunte la Nationale 4 quasiment quotidiennement entre Pont-au-Combeau et la sortie Provins. Ça fait environ une quarantaine de kilomètres. Et déjà quand il pleut, la voie de gauche elle est quasiment... on peut quasiment pas rouler dessus parce qu'elle est pleine de flotte, c'est pas nettoyé, il y a risque d'aquafaline, il y a souvent des accidents. Et puis des nids de poules. Alors quand je dis des nids de poules, c'est ce que je marquais dans mon message, c'est quasiment des nuits où pourraient aller des oies parce que des fois c'est horrible. Franchement, une fois, alors nous ce qu'on fait avec ma femme, c'est qu'on essaye de les éviter. Mais si jamais vous êtes gêné par une voiture ou un camion que vous roulez sur un nid de poule, la voiture des fois elle fait des bonds, mais c'est horrible quoi. Une fois j'ai envoyé un mail à la députée du coin, et puis c'est pas de réponse évidemment, mais ça fait des années que ça dure quoi.
Donc en fait là c'est l'État, la Nationale, c'est mal entretenu.
Ouais, alors c'est l'État, mais pas dire de bêtises, je pense que c'est passé au niveau du département depuis 1, 2 ou 3 mois.
Ah bon, d'accord.
Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de changement.
Et ça change rien.
Je me suis dit que ça serait peut-être mieux géré par le département que par l'État. Mais il faut savoir que c'est une route qui est beaucoup empruntée par les camions qui vont dans l'Est, en fait, les Polonais et tout, qui évitent de prendre l'autoroute. Et c'est terrible, quoi. Cette route, c'est un calvaire. Franchement, c'est un calvaire, quoi.
Et c'est pas une petite route, hein. La Nationale 4 est très empruntée, donc elle mérite d'être bien entretenue.
Moi, je la prends, c'est une 2x2 voies. Et franchement, c'est... moi, je voulais un jour, je m'étais dit, je m'arrêterais, je ferais des photos pour faire un dossier, pour envoyer ou aussi bien à la presse ou aux députés, mais c'est un peu dangereux de s'arrêter pour faire des photos.
Ce serait pas mal de faire un guide des nids de poules.
Ouais, moi, je roule à l'Écoise et c'est vrai que quand je peux, je les signale. Ça fait que je gagne pas mal de points à chaque fois que je signale un truc. Je le fais pas pour ça.
Le problème, c'est que derrière, effectivement, il n'y a pas de réponse.
Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui roulent en deux roues.
en scooter ou en moto. Donc ça devient de plus en plus
dangereux.
Dangereux aussi pour tous ceux qui sont à scooter. Et je parle combien vous êtes à rouler à scooter ici? Un, deux, Charles, non, pas toi. Donc il y en a deux qui roulent à scooter. Donc ça devient de plus en plus dangereux. Après, moi, je me souviens quand Donald Trump avait été élu aux États-Unis, il avait lancé un grand plan de plusieurs dizaines de milliards
pour
de
les
dollars,
infrastructures.
Des infrastructures et de rénovation justement du pays en disant c'est pas possible.
Là pour le coup, ça fait du boulot en plus, ça permet d'employer des entreprises françaises.
Moi, je serais pas choqué si tu veux aujourd'hui, tu vois, tu as un grand plan de rénovation. Des routes, des nationales, des départementales, des ponts.
Oui, mais je crois que. Oui, mais tu sais quoi
Et là, les Français diraient que c'est un argent qui vient d'employer parce qu'on le voit au quotidien, on le verra au quotidien.
Le problème de ceux qui nous gouvernent, ils n'ont pas beaucoup de réseau ailleurs qu'à Paris, puisqu'il y a très peu d'élus locaux Renaissance. Il n'y a pas de grand-mère Renaissance, il n'y a pas de président de département Renaissance. Et je pense qu'il y a un problème de remontée d'infos et de se rendre compte que la France, ce n'est pas seulement Paris et les grandes villes. Il faut habiter effectivement en Seine-et-Marne, il faut habiter dans tous ces coins-là pour se rendre compte que le réseau se détériore. Et je pense qu'il y a un manque de relais du côté du pouvoir qui nous dirige, parce qu'il y a un manque d'élus, parce qu'il y a, ouais, il y a quand même des gens un peu hors sol. C'est pas d'ailleurs leur faire insulte. Gabriel Attal a énormément de qualité, Gabriel Attal, mais enfin, il n'a jamais dépassé la région parisienne.
Et
c'est quand même le cas de beaucoup de ceux qui nous gouvernent.
Il faut pas nous faire des grands débats à ce moment-là et nous faire penser qu'on écoute les territoires, comme on dit, et qu'on va à la rencontre des préfets machins et des maires de ci et de là. Donc, non, moi, je crois qu'ils sont au courant. Je crois qu'ils sont au courant et c'est un choix politique. Je crois que c'est un choix court-termiste parce qu'en fait, on court après l'élection, la prochaine élection. Et que ce type d'investissement, c'est pas ce qui va dans leur tête rester en mémoire. C'est ce qui passe dans leur tête, ce qui va rester en mémoire de l'électeur. Donc on préfère filer des chèques, des choses qui s'occuper des Français, comme ils disent, parce qu'ils adorent s'occuper des Français. Le Français veut ci, le Français veut ça, parce qu'on se dit comme ça, il votera pour moi la prochaine élection. Non, parce que ce type de choses là, c'est très bien, mais c'est pas hyper visible. C'est pas tout de suite le chèque dans la poche de Joël ou de Charles. Donc ils s'imaginent que ce sera pas rentable en termes de vote. Tout simplement.
Est-ce que vas-y.
Pour moi, c'est un mélange budgétaire et un mélange de dysfonctionnement profond de nos administrations. Alors, pour cette portion de route.
Il y avait la
route,
DDE avant. Oui, la direction départementale de l'équipement.
Il y a la direction régionale des routes ou interrégionale des routes.
Qui a été démantelée, la DDE.
Oui. Et donc, en fait, fallait lancer l'appel d'offres il y a 2 ans pour réussir à rénover la route au bon moment, tel qu'on l'avait prévu. Dans le dysfonctionnement administratif, on n'a pas lancé l'appel d'offres. Et ensuite, attendez, on est en décalage parce que si on rénove celle-là, on doit la fermer, mais ça va tomber en même temps qu'on rénove l'autre. Donc, tout est désorganisé. Ouais. Et donc, je crois qu'il y a un sujet budgétaire, mais il y a surtout un sujet de désorganisation complète de nos administrations.
C'est vrai.
Et ça, réussir à le remettre à plat, réussir à retrouver de la technicité. Parce qu'on avait dans nos administrations, on tape
mais
souvent sur les fonctionnaires. Mais on avait de bons techniciens. On avait de bons techniciens, de bons ingénieurs qui, pour certains, sont partis. Pour d'autres, on lâché la rampe parce que de toutes les façons, ça marche pas, etc. Là. Donc tout s'effondre.
Retrouver de l'excellence.
Ouais,
ça va pas s'arranger avec les écolos qui eux vont répondre que de toute façon, exactement. Il ne faut pas entretenir les routes puisqu'il faut abandonner la voiture. Donc on va pas investir.
Le budget voirie, par exemple à Paris, qui a été divisé par deux, parce qu'effectivement, c'était plus une priorité.
Ce qui est amusant, c'est que souviens-toi, avant, tu avais je pense que ça existe toujours, les ingénieurs des
ponts et chaussées.
Et
ça, c'était l'excellence à la française.
Mais oui. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui en mauvais état? Les ponts et chaussées. Alors, quand tu disais dans la famille, t'avais quelqu'un qui était ingénieur des ponts et chaussées.
Ah ouais,
il y avait une espèce.
Souvent, il avait fait polytechnique avant.
Exactement. C'était une fierté, Stéphane. Bonjour.
Et on était un modèle, encore il n'y a pas très longtemps.
Bon, je remercie Thierry du côté de la Seine-et-Marne de nous avoir raconté les nids de poules du côté de Pontaucombo. Est-ce que tu vois où est Comines, mon cher?
Ah oui, Comines, c'est
dans le Nord.
Lilloise, ouais.
C'est dans le. Tu connais
juste c'est proche de la Belgique. La limite de la Belgique. Ouais. Il y a Comines Belgique et Comines France.
Exactement.
Eh bien, nous allons y retrouver Stéphane. Bonjour Stéphane.
Ouais, salut les grandes gueules, content de vous avoir.
Alors que, mon cher Stéphane, vous êtes motard.
Oui, c'est ça, je suis motard depuis 30 ans maintenant.
Alors, 30 ans, donc l'expérience de la route. Et elles sont comment les routes vers chez vous?
Elles sont catastrophiques. Bah, je vais un peu reprendre ce qui a été dit avant. C'est les nids de poules, les lézardes, et puis la manie de couper les éclairages publics maintenant.
Ça c'est terrible, parce que
quand on se prend un nid de poule en pleine nuit et qu'on l'a pas vu arriver, ça surprend et c'est souvent la chute quoi.
Couper l'éclairage public et ne pas changer les ampoules en plus.
Pardon?
On a parlé en même temps. Non, mais il y avait coupé l'éclairage public et à beaucoup d'endroits ne pas changer les ampoules. Moi, sur la 16 vers Dunkerque, il y a toute une partie où la nuit ça clignote. Quoi, il y a une ampoule sur deux qui marche.
Oui, c'est donc un défaut d'entretien.
Ouais, défaut d'entretien.
Et les nids de poules, vous en constatez de plus en plus?
Ouais, énormément. Ça et puis les lézardes. On a des lézardes qui sont pas dérangeants pour les voitures. C'est pas dérangeant pour les bagnoles. Mmh. Par contre, pour une roue de moto avant qui passe là-dedans, ça change la trajectoire complète et puis on peut se retrouver sur la voie de gauche ou dans le fossé carrément. Et
la priorité, c'était d'instaurer le contrôle technique pour les deux roues.
Mmh. Oui. Ben justement, j'allais y venir parce que c'est d'actualité justement ce qui serait vraiment beaucoup plus sécuritaire pour nous les motards, ça serait justement de faire ces réparations qui sont vraiment nécessaires pour nous quoi.
Mmh. Oui, parce que les mêmes qui nous disent attention, il faut bien, d'ailleurs, ils ont raison, il faut bien entretenir votre véhicule, mais ils ne nous disent pas qu'est-ce qu'il faut bien entretenir la route. C'est aussi important, voire plus important.
Exactement, parce que ce qu'on ne dit pas dans les médias, c'est que ce qui est dangereux pour les motards, c'est les routes. Un accident de moto, c'est 0,3% dû à des pneus lisses ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment très très faible.
Eh oui. Mmh. Eh oui. Mais ça, c'était une décision européenne.
Ouais, malheureusement, Et ça, c'est un sujet qui m'attriste d'année en année, c'est de se voir à genoux devant cette Europe qui nous dirige et qui nous fait faire n'importe quoi.
Mais est-ce que vous êtes à la frontière belge, est-ce que ça vous arrive de passer de l'autre côté et de constater une différence ou pas?
Non, en Belgique c'est pareil. Moi je suis à 3 minutes de la Belgique, donc j'y vais très très régulièrement. Et en Belgique c'est pareil. Les routes elles sont dégueulasses aussi.
Ah, du coup on pourrait faire un plan.
Oui, mais alors voyez, mon cher Stéphane, le ministre des Transports, qui est-il?
C'est
Patrice Vergriet, l'ancien maire de Dunkerque.
Vous savez pourquoi il est ministre des Transports?
Non.
Parce qu'il a fait le bus gratuit à Dunkerque.
Ah oui,
tout le monde a dit, oh, c'est un professionnel du transport. Là, il a mis le bus gratuit à Dunkerque, ça a l'air de marcher. Allez au transport, hop.
Avant, il était au logement.
Oui. C'est parce qu'on nous a dit que c'était un professionnel du logement.
Oui, mais alors, c'est un professionnel de tout, mais ça marche rarement quand on s'en occupe.
Ce que je veux dire, c'est que notre ami Stéphane, qui nous appelle du Nord, pour nous dire que l'état des routes est déplorable dans le Nord, il y a un ministre des Transports
qui vient
de cette région en plus, Stéphane, puisque c'était le maire de Dunkerque, Patrice Vergriet. Donc l'état des routes, il doit le connaître, monsieur le ministre. Là,
après les Européens, il sera peut-être. Et avant, on a eu Beaune qui n'a rien fait, qui voulait juste devenir maire de Paris et qui ne le sera pas.
Non, mais après c'est pas que dans le Nord qu'on a des routes pourries, hein. C'est un peu partout en France. Hein.
Mais il pleut plus dans le Nord, donc c'est plus
con. Ah, non, il pleut que sur les cons. Ah,
c'est ça. Mon cher Stéphane, merci.
Non, il y a que dans les endroits où il pleut tout le temps qu'on dit ça.
Merci d'avoir été dans les GG. Bonne route, prudence. Merci de nous avoir raconté l'état des routes du côté du Nord à Comines, donc à la frontière belge. On a posé la question, les routes endommagées, la 13 fermée. Est-ce qu'aujourd'hui, globalement, on peut dire que les automobilistes sont en danger? C'est un oui à 85,7%. Donc voilà un chantier aujourd'hui pour notre ministre des Transports, monsieur Patrice Vergriet, s'il veut venir en parler dans les GG, dans les grandes gueules.
Avant qu'il soit remplacé, parce que il y aura un remaniement forcément après les européennes.
Oui, donc
la durée de vie d'un ministre sous Emmanuel Macron est assez réduite.
On se retrouve demain avec Barbara Lefebvre, Bruno Poncet, Mehdi Guézard. En attendant, vous pouvez continuer de discuter, de débattre sur RMC, RMC Story. Avec l'étincelante, la sémillante Estelle.
Là, j'ai bien fait venir. Bonjour Alain, bonjour les GG, bonjour à tous. Nous, on va parler de ces 67% de Français favorables à un couvre-feu pour les mineurs afin de lutter contre la délinquance des jeunes. D'accord, pas d'accord, dites-nous tout au 32-16. Selon France Travail, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a un tiers des chômeurs qui ne recherchent pas d'emploi de manière active.
Qu'est-ce qu'ils font?
Mais est-ce que ça vous choque? Voilà, est-ce que c'est choquant? Ils ont cotisé, voilà.
Oui,
on en parle à 13h. Et puis, on compte près de 900 villages vacances en France. Mais passer ses congés dans un village vacances, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Voilà. Est-ce que vous êtes séduit par ces voyages où souvent tout est tout compris, ces villages où tout est tout compris? Eh bien, dites-nous tout au 32-16 et sur la pierre RMC. On se retrouve à 14h pour ce débat.
Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'adore les clubs de vacances, all inclusive.
Bah, c'est ça.
J'ai envie de vivre comme ça.
All inclusive.
Je veux finir ma vie comme ça.
Avec des enfants.
Ça s'appelle
des Oui, c'est une sorte de maison de retraite quelque part.
Oui, mais je veux commencer maintenant.
Allez, bon débat avec Estelle, à demain 9h.